Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, Sens Créatif fêtera sa 5e bougie lors d'un épisode d'anthologie enregistré en public à la Slow Gallery à Paris à partir de 19h. Avec un casting 5 étoiles dont le joyeux duo Greduc et Boucard, le talentueux Pierre-Emmanuel Lillet et la luxuriante Yukiko Noritake. Sans oublier la petite rétrospective sur l'histoire de Sens Créatif en deuxième partie. On espère vous y voir très nombreux. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, en guise de compte à rebours, nous avons le plaisir de vous annoncer que chaque jour jusqu'au 6 décembre, nous rendrons public les 6 épisodes des Keepers of the Keys qui étaient précédemment une exclusivité pour les membres du Patate Club. On espère que ça vous plaira et on compte sur vous pour être nombreux et nombreuses lors du live enregistré à la Slow Gallery le 6 décembre prochain. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee.
Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, au live mensuel exclusif avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
Et bonjour à toutes et à tous. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans ce deuxième épisode des Keepers of the Keys, les gardiens des clés en français. Et ouais, un épisode mensuel exclusivement.
Ça veut dire quoi les gardiens des clés, Jérémy?
Les gardiens des clés, ce sont les personnes qui détiennent les clés de l'industrie. Donc par là, on entend, enfin l'industrie, hein, c'est un mot assez anglophone, mais en France, on utilise un petit peu moins ce terme. Mais pour nous, ce sont un peu les directeurs artistiques, les agents, les éditeurs, les galeristes, un peu ces personnes-là. Et ce sont des épisodes exclusifs qu'on réserve à la communauté qui nous soutient sur
Patate Club.
Voilà. Sur Patreon et Tipeee, ça vous permet aussi de poser directement vos questions à ces personnes qui sont parfois pas faciles d'accès. Et aujourd'hui, du coup, on a l'énorme chance, on est hyper content d'accueillir Anne-Bénédicte Schwebel, éditrice, directrice générale et artistique de Maison Georges. Bienvenue sur le podcast, Anne-Bénédicte.
Bienvenue.
Merci, bonjour Jérémy, bonjour Laurent, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Grave, on est
et
super content
de partager
contents.
Cette expérience.
En effet,
bah oui, on va bien voilà. Profiter.
On se connaît depuis un petit bout de temps, hein, Anne, Bénédicte, on a j'ai travaillé pour vous ça plusieurs fois par le passé. Mm-hmm. Et même avant que Sens Créatif n'existe. Et je te le disais en off que votre maison Georges a beaucoup été demandée par nos auditeurs et nos auditrices. Donc il y a de l'historique entre nous et puis je suis super content que tu puisses venir avec nous papoter de ton parcours, de ce qu'est Maison Georges, de ce que c'est devenu parce que c'est une sacrée aventure et de pouvoir échanger avec nos auditeurs. Donc si vous avez des questions pour Anne-Bénédicte, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas à droite.
Il y en aura puisqu'ils ont réclamé.
Voilà, exactement, il y a intérêt. Et puis, ben, sans plus tarder, on va foncer dans cette belle histoire qui est la tienne. Donc, pour commencer, Anne-Bénédicte, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le merveilleux monde de l'illustration? Parce que ça fait quand même très partie de ton travail aujourd'hui.
Alors, ma rencontre, je suis tombée dans la marmite de l'illustration très petite, très jeune, parce que j'y avais beaucoup de livres jeunesse à la maison. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il n'y avait pas forcément de culture chez mes parents du tout de l'édition jeunesse. C'était assez intuitif. Si ce n'est quand même que mon papa est alsacien et qu'il avait grandi avec Anzi, ses parents, et puis Hélé aussi, et puis Ungerer, bien sûr.
Ben oui.
Enfin, oui, pas grandi, mais en tout cas, il suivait le voilà.
On peut dire qu'il y a une culture de l'image en Alsace, ouais.
Ouais. C'est, et puis il était publicitaire, donc aussi une culture de l'affiche, du graphisme, du message. Voilà, et puis ma maman c'était c'est toujours d'ailleurs une esthète et tous les deux nous ont un peu toujours traîné à gauche à droite de vide-grenier en voyage avec des choses assez rigolotes quand j'y repense, mais quand on partait en voyage, on allait dans les supermarchés et on cherchait les beaux packaging, quoi, par exemple. Donc c'était où on quittait pas un pays sans être passé par un supermarché et revenir avec des cahiers de classe pour la rentrée de tel ou tel pays dont le graphisme nous avait plu, en cherchant parmi toute l'offre, hein, des choses un peu graphiques, originales, épurées. Voilà, il y avait un vrai sens qui nous a été transmis d'une esthétique, du beau, et puis de l'édition. Donc moi j'ai grandi avec Ungerer, avec le Giron Zeralda, c'était vraiment mon préféré, mais aussi avec Léo Lioni, avec les albums du Père Castor, avec Arnold Bobel, avec Maurice Sindac, notamment tous les petits ours. Je vous les ai pas apportés d'ailleurs, mais je les ai toujours et ils ont bien vécu. Voilà, donc j'avais quand même tout cet environnement sans trop m'en rendre compte, mais très privilégié d'images et d'auteurs aussi, de grands talents. Voilà. Et puis après, au fil de mon parcours, j'ai continué à maintenir un peu un lien sans forcément trop le vouloir au départ avec le livre jeunesse. Je vous raconte un peu mon parcours, du coup.
Ouais, bah j'allais te demander aussi, est-ce que tu dessinais petite, vu que tu étais entourée de toutes ces illustrations, il y a quand même une culture graphique qui était là, tu dessinais un petit peu?
Non, je dessinais pas, j'écrivais plutôt.
Ah, ok, des histoires.
Voilà, des petites histoires, des récits de un peu de voyage, hein, surtout. J'ai retrouvé des cahiers un petit peu avec tout ça. C'était pas forcément exceptionnel, mais en tout cas, j'essayais. Et puis j'ai quand même voulu, effectivement, en termes d'orientation professionnelle, je savais pas trop quoi faire, et j'ai plutôt privilégié le journalisme. Mon papa avait aussi une expérience de journaliste avant d'être dans la pub. Je pense que ça avait aussi marqué un peu son empreinte. Et donc, j'ai préparé Sciences Po pendant un an. J'ai fait une prépa Sciences Po. J'ai pas été acceptée. J'ai pas été prise. Et du coup, après, j'ai pris une autre voie. J'ai eu une équivalence à l'université avec ma prépa en AES, administration économique et sociale. Donc là, j'ai fait des sciences sociales, j'ai fait du droit, j'ai fait de la gestion, vraiment rien à voir. Et puis ça me plaisait pas trop, mais j'ai quand même fait ma maîtrise. Mais en parallèle, j'ai commencé à faire d'autres choses. J'ai fait des cours de formation au journalisme au CFJ de la rue du Louvre. Et puis j'ai commencé aussi à vouloir un peu gagner ma vie, me faire un petit peu d'argent. Et donc j'ai commencé à travailler dans une boutique de jouets un peu hors du commun. Qui s'appelle Si tu veux, qui est située Galerie Vivienne à Paris, dans cette très belle galerie là vers le Palais Royal. Et là, j'ai fait une rencontre qui a beaucoup compté avec la créatrice de cette boutique de jouets, mais qui était plus qu'une boutique de jouets. Il y avait des Japonais qui débarquaient en car pour venir découvrir qu'est-ce que c'était que Si tu veux, parce que c'était répertorié dans tous les guides du Japon comme une bonne adresse à Paris. Donc elle créait ses jeux, elle concevait les jeux. Elle s'appelle Madeleine Denis. Elle continue à pas mal compter dans tout ce qui est milieu un peu éducatif. Comment faire vraiment jouer les enfants? C'est quoi un vrai bon jouet? En quoi l'industrie du jouet aujourd'hui, est plus forcément intéressée par cette base là de d'amuser vraiment et de distraire les enfants. Donc j'ai travaillé là-bas et elle a ouvert une deuxième boutique, et dans cette deuxième boutique, c'était surtout une librairie. Donc ça c'était début des années 90, donc 90 à 97, je travaille là-bas. Et je vends des livres et je reçois tout ce qui sort, une bonne sélection de tout ce qui sort. Et je commence à conseiller des livres et à en lire beaucoup, parce que la semaine il n'y a pas trop de passages Galerie Vivienne, donc j'ai le temps de lire.
Et du coup, tu fais une grosse culture graphique pendant ces années-là.
Voilà. Donc là, je découvre notamment les albums photos de Tania Oban, je découvre Najda Solotareff, Hélène Oxenbury, Květa Pakowska. Vraiment, c'est des livres qu'on reçoit. Je connais pas ces noms-là. Parce qu'entre-temps, entre l'enfance et ce moment-là, moi, j'ai plus trop suivi tout ça.
Oui, t'as un gap.
Tu
rattrapes.
Et là, je rattrape.
Ça devait être trop bien de pouvoir bouquiner à mort comme ça tout le temps.
Et puis dans un endroit merveilleux.
C'était ouais, surréaliste parce que la moitié de la boutique, c'était du livre jeunesse et l'autre moitié, c'était des ours en peluche pour des collectionneurs d'ours en peluche. C'était une spécificité de la maison aussi. Donc, c'était un drôle de mélange. Voilà. Et puis, j'ai commencé aussi un peu à travailler sur d'autres choses avec elle, sur les relations presse. À l'accompagner au-delà de la vente qui au départ c'était vraiment un petit boulot alimentaire et c'est que ça a commencé à devenir plus.
Ouais, donc, t'es rendu compte que c'était pas seulement la boutique quoi, il y avait tout ce qu'il y avait autour en fait qui faisait que ça faisait justement rayonner en fait le.
Oui, exactement. Exactement. Voilà, puis ça m'a, enfin, en même temps, je me formais au CFJ, en même temps, j'ai travaillé là deux jours et demi par semaine, et du coup, j'étais en contact avec des journalistes, notamment par ma nouvelle casquette de RP, et c'est comme ça que je suis rentrée dans le groupe Bayard, pour travailler chez Enfants Magazine comme stagiaire, et puis ensuite, j'y suis restée comme pigiste, et donc, j'ai travaillé pour de la presse jeunesse, j'ai travaillé notamment pendant 2 ans pour des suppléments qui s'appelaient Enfants Plus, où là on faisait des tutos d'ateliers, on proposait des idées de sortie en famille, enfin voilà. Donc là, l'aventure commence vraiment avec le magazine pour enfants, dans l'univers du magazine pour enfants.
Ouais, on voit déjà de toute façon les prémices de ce que tu fais aujourd'hui, les jouets, l'univers un peu atypique, l'enfance, l'édition. C'est comme quoi. Enfin, tout est lié, quoi. Il n'y a pas.
Ouais, exactement.
Ouais. Et donc, tu bosses chez Bayard un petit bout de temps, j'imagine. Et puis, en 99, tu fondes le magazine Grain de sel.
Ouais.
Où j'ai loupé
2000.
Un truc.
Ouais. En 2000. Non, mais c'est ça. Je quitte Paris en 98, enceinte, bien bien enceinte, ma première fille. J'arrive à Lyon, j'essaie de reprendre un peu mes piges avec des titres du groupe Bayard et chez Hachette aussi. Je travaillais pas mal pour différents magazines, et jeunesse et famille chez Hachette. Et puis en fait, je me rends compte que c'est pas ce dont j'ai envie de travailler de chez moi à distance, à essayer de continuer à garder des piges et
parce
travailler
qu'il faut quand même le dire hein, si on se remet aussi dans le contexte de l'époque, c'est pas évident de vouloir travailler dans ce milieu-là en partant de Paris quoi.
Non, c'est clair.
Voilà.
Je l'avais pas forcément mesuré voilà.
C'est vrai, à ce point-là, c'est vertigineux ou c'est parce que c'est l'époque?
Bah en fait, on noue des relations en étant à Paris, on peut quand même venir dans les rédactions et maintenir une relation de complicité un petit peu avec des gens qui du coup choisissent de te faire travailler toi plutôt que Pierre-Paul ou Jacques, il y a l'embarras du choix. Et quand tu es à distance, cette relation-là, elle se distend forcément. Et
oublie Instagram 2 minutes parce que ça n'existe pas à l'époque. Voilà, par exemple.
On est en 2000.
Oui, voilà. Puis communiquer, voilà, c'est.
Le mail, c'est encore pas non plus la folie. Hein, on est beaucoup sur le téléphone.
On se rencontre beaucoup.
Ah ouais. Donc à limite, à l'époque, pardon, être à Paris, c'était vraiment un big deal. Maintenant, ça allait peut-être un petit peu moins, mais à l'époque, c'était important pour être au cœur du réseau et de ce qui se faisait. Ah, c'est intéressant. Donc tu te retrouves à Lyon, donc les relations sont un petit peu distendues et tu te rends compte que c'est pas trop ce que t'as envie de faire au final.
Oui, c'est ça. Et je me dis j'ai envie de créer quelque chose qui a un peu plus d'envergure, je pense que et il y avait pas mal d'inconscience, je décide de créer ce magazine. Gratuit, dont ils existaient surtout un modèle, on va dire, qui était Paris Môme.
Paris.
Ouais. Et un magazine gratuit pour les familles avec pas mal d'ambition derrière, notamment de qualité.
Grain de sel, je précise. C'est pas encore magazine Georges, c'est grain de sel.
Non, c'est grain de sel. Voilà, donc grain de sel naît en début 2000. Et puis, je l'ai vendu en 2016. Donc, 16 années qui m'ont pas mal occupée.
Ah ouais.
Un magazine bimestriel dans un premier temps, puis qui est devenu mensuel en 2009. Ce qui a son importance, mais je vais y revenir après. Et des photographes associés, enfin principalement un photographe, mais une grande attention portée au traitement de l'image, à la maquette, voilà, des choses très soignées. On était vraiment des comment dire,
des férus de graphisme.
Oui, des férus de graphisme. Et puis on pinaillait beaucoup. Enfin, fallait que chaque numéro, mois après mois, soit nickel, parfait. On chassait des petites imperfections de partout. C'était un petit, voilà, c'était un projet très incarné par l'équipe, très passionnée autour de ça. Donc c'est là qu'on a vraiment développé, que j'ai développé cette passion pour le magazine aussi en le vivant de l'intérieur. Et puis surtout en apprenant tout sur le tas. Donc à partir de janvier 2000, je commence à faire les calages à l'imprimerie nationale à Bondouf, à 3h du mat, parce que comme j'étais un petit client pour ces imprimeries-là, en général, on me calait la nuit.
Ah oui.
Donc j'ai passé des nuits sur le canapé en cuir.
Ah oui, c'est des aventures.
Du bureau des contremaîtres, en y étant arrivé à 1h du mat avec ma petite Otto Bianchi là. J'arrivais à Bondouf et je faisais les calages. Donc j'ai les clopes au-dessus des machines à 3h du mat, faut finir.
T'imagines bien, c'est rock'n'roll, là, vu comme
c'est
ça.
C'est rock'n'roll. Voilà. Et puis après, on a changé pas mal d'imprimeurs et on est allé au calage je suis allée au calage de tous les numéros Grain de sel.
D'accord, ouais.
Donc, j'ai forcément beaucoup appris. Donc là, c'était de la rotative. Mais c'est une bonne école aussi pour apprendre à caler rapidement parce que ça tourne. Et puis qu'on vivait de la publicité et que les annonceurs, on imprimait sur un papier offset, ce qui était un choix. Moi, j'aime tout ce qui est mat. On avait un très beau papier, mais par contre, qui buvait beaucoup. Et donc, les annonceurs qui avaient l'habitude de passer leurs pages dans des supports en couché bien brillants arrivaient après me voir en disant « Alors, je comprends pas très bien là, la pub. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre magazine ?» Donc, il fallait vraiment se battre en machine pour pouvoir optimiser le rendu. Et j'ai beaucoup appris sur l'impression. J'ai beaucoup appris là-dessus. J'ai beaucoup appris sur le management de l'équipe. M'a fallu du temps.
Vous étiez beaucoup dans cette équipe?
Au départ, j'étais toute seule. Et puis deux, puis trois. Puis en 2009, 2009-2010, on est cinq.
D'accord, ouais, quand même. Ouais, donc.
Voilà.
Okay. Et donc, tu disais, le business model, c'est la publicité. Du coup, puisque c'était gratuit, Grain de sel.
C'est gratuit, tout à fait.
Chose qu'on ne retrouve pas dans.
Ah oui, on verra.
Dans Georges, il n'y a pas de publicité. Mais on y reviendra.
On y reviendra tout à l'heure, mais c'est rigolo, le switch est marrant. Et du coup, donc ce business model-là, tu le mets en place comment? Comment tu fais justement pour faire vivre ce projet avec la pub? Comment tu vas voir au niveau des annonceurs, tout ça? Comment tu te débrouilles?
Mon pari, c'était de faire de la qualité, de créer une communauté, même si on n'avait pas les outils pour le faire autour. Et c'est ce qui s'est passé. Grain de sel est devenu un peu un incontournable. Moi, je suis assez discrète. Je vais pas trop me montrer à gauche et à droite. J'avais pas du tout d'appui. Ce que j'ai découvert et qui était le cas, la presse locale, elle vivait beaucoup de ses appuis politiques et des décisions en très haut lieu pour pouvoir avoir régulièrement ta quatrième de couve achetée, tes pleines pages, etc. Moi, j'avais pas tout ça.
C'était des subventions détournées.
Et voilà, c'était drôle de paysage, tout ça. Et du coup, moi, le pari, c'était plutôt de faire un beau mag et d'essayer surtout, c'était un peu notre baseline à l'époque, d'aller fouiner et trouver des choses que les Lyonnais connaissaient pas et de les inviter à aller les découvrir avec leurs enfants. Donc vraiment à prendre par la main et à emmener un peu hors des sentiers battus. Et c'était ça l'excitation en fait. C'était tout l'enjeu et la complexité parce que ensuite, si tu veux, quand t'emmènes voir des programmes de cinéma d'animation qui sont pas, qui changent un petit peu des trucs mainstream et tout, et ben à côté ceux qui ont l'argent pour être annonceurs, c'est plutôt les gros, évidemment.
Oui, bien sûr.
Et les gros avaient pas mal l'habitude de dealer dans le cadre de ces gratuits. Ok, je te prends une pleine page et j'ai mon article avec. Et puis évidemment, ça va de soi, mon article qui dit du bien de mon film. Donc ça a été un vrai challenge de réussir à garder l'indépendance entre ce dont on voulait parler, ce dont on avait envie d'être les porteurs, les prescripteurs, et puis à côté qui pouvait se financer le magazine. Et cette indépendance, on a réussi à la garder. Et du coup, il y a eu vraiment beaucoup de... à Lyon, tout le monde parlait de grain de sel. Tout le monde voulait récupérer son grain de sel.
Génial. Ah oui, j'imagine que c'est complètement la contrepartie parce qu'en fait, tu te fais un réseau aussi d'indépendants autour de toi qui partagent ces valeurs-là.
Oui.
Ouais, nous, c'est ce qu'on appelle un petit peu la tribu. Tu trouves ta tribu autour de toi. Il y a justement ces échanges-là de bons procédés qui font que le réseau s'agrandit.
Oui, complètement. Et puis, comment tu installes une identité tout de suite? T'as même pas besoin de voir le logo. Tu sais que c'est grain de sel. Et ça, c'était aussi un gros boulot avec mon frère qui est photographe, qui était photographe associé à l'aventure de numéro après numéro. On a fait 116 numéros en tout pendant cette durée. À garder cette identité photographique et montrer l'enfance un peu comme ce qu'on avait envie à l'intérieur. C'était un sacré challenge parce que on voulait que ce soit des photos qui fassent très naturel. Et en même temps, c'était des photos qui étaient un petit peu montées pour qu'elles soient graphiques. Pour qu'elle soit forte. Voilà, mais du coup tu identifiais tout de suite grain de sel à la fois par sa couve, ses photos et son traitement à l'intérieur.
Ben, ça a l'air d'être une sacrée aventure. Du coup, qu'est-ce qui fait que en 2016 tu décides de vendre grain de sel et de te lancer dans une nouvelle aventure du nom de Georges?
Alors l'aventure, elle s'amorce en parallèle. En amont de 2016. Elle commence en 2009 quand je décide qu'on va passer en mensuel. Ce qui peut paraître un petit peu à l'époque une folie puisque on a subi des années on a vraiment été 2001, 2000, 2000, 2003, 2004, c'est la galère. Parce qu'on met tout en place, il faut aussi mettre en place le réseau de diffusion. À la fin, on avait 700 points de diffusion sur Lyon et son agglo, mais j'ai commencé par le premier et tu vas démarcher tous les points de diffusion toi-même. Tu crées tout en fait. Après, on a eu des belles années. Là, 2004-2007, c'était trois belles années. On avait acquis de la notoriété, on avait de la pub. Ça commençait à être une chouette aventure, un petit peu galère toujours, mais quand même de mieux en mieux. Et puis 2008, c'est la crise. Les budgets de la pub se réduisent un peu à peau de chagrin. Et du coup, mais on a tellement une belle notoriété que les gens s'appuient vraiment sur nous, même les annonceurs, et il y a de la demande. Du coup, je décide de passer en mensuel et du coup, j'arrête de travailler avec un graphiste qui était externe, ce qui n'était pas forcément simple à gérer, et je recrute une graphiste qui est Stéphanie Lann, qui est toujours là aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Et qui est là, voilà, avec nous, qui fait partie de l'équipe. Du coup, elle s'approprie grain de sel roule, donc elle fait grain de sel. Et puis, on a du temps à côté. Et du coup, on se dit, et pourquoi pas créer un magazine, sortir du modèle de la gratuité et faire quelque chose où là, on est vraiment libre complètement de faire ce qu'on veut, notamment graphiquement.
Voilà. Et quand tu dis sortir de ce modèle, ça veut dire justement plus de publicité.
Plus de publicité, exactement. Voilà,
et on décide. Independence.
Exactement. voilà, donc nouvelle grande inconscience, je pense, au moment où on décide de lancer Georges, et parce qu'on repart vraiment dans une nouvelle aventure.
Mais d'où l'idée t'est venue de créer ce magazine? Hormis, je veux dire, je comprends bien le désir de faire quelque chose d'indépendant, puis de publicité et tout, mais l'idée même, c'est quoi un peu la genèse du projet?
Et qu'est-ce qui fait que Georges ressemble à Georges, quoi, voilà.
Alors, le pourquoi, c'est, je pense, de voir que était en train d'éclore une presse différente, vendue en librairie, où l'image prend une vraie place.
C'est l'époque où il y a beaucoup de MOOC qui sortent.
Il y a beaucoup de MOOC en librairie et il n'y a rien pour la jeunesse.
Entre le book et le magazine.
Hein, 21 ouais. Notamment.
Oui, et 21, Feuilleton.
Ouais. Le MOOC, d'ailleurs, ça s'appelait comme ça. écrit autrement.
Et puis il y a eu Citrus après. Ouais.
Ah oui, Citrus, oui.
Bombec. Voilà. Il y a Bombec aussi.
Bombec, tout à fait. Alors Bombec, qui sont vraiment, ça a été concomitant à Georges, leur sortie. On est sorti quasiment en même temps, je crois.
Bénédicte.
Tout à fait.
Je prouverai pas. Puis celui-là aussi, regarde nos auditeurs qui nous regardent.
Anorak.
J'habitais en Angleterre à l'époque quand je commençais en 2010 à m'intéresser à l'illustration et j'avais qu'une envie, c'était d'être publié chez eux. Et bref, je sais que, enfin, quand je suis arrivé en France, on y reviendra. Quand j'ai découvert Georges, c'était genre, waouh, un truc un petit peu comme Anorak et français. J'ai trop envie d'en être, quoi. Bon, bref, je te.
Alors c'est vrai que Anorak, ça a été les vrais défricheurs de ce type de proposition. Ils étaient avant déjà, et on avait découvert et on trouvait que c'était super chouette. Donc tout ça. Nous a donné envie de proposer un magazine qui n'existait pas pour les enfants, parce que à vrai dire il n'y avait pas de et Bombec c'était encore un peu différent, mais de magazine comme ça qui avec un très fort sens de l'esthétique, qui propose un type d'illustration différente, dans lequel l'objet magazine lui-même, le papier que tu choisis, sa fabrication compte, et que tu penses que ça peut compter pour des enfants d'avoir un mag comme ça dans les mains. C'était ça le parti pris de Georges au départ. Et puis l'idée à l'époque n'était pas d'arrêter Grain de sel, très honnêtement. Même si c'est le chemin qui s'est fait entre 2010 et 2016. Voilà, ça a été de plus en plus difficile de vendre de la pub pour faire vivre. Ça coûtait très cher, hein. Pour arriver à vendre la pub au prix à laquelle on la vendait, on avait une impression de 45 000 exemplaires. Donc, entre 45 et 60 000 pour certains tirages. Donc, c'était énorme. Et il fallait qu'il y ait cette visibilité. Donc, ça devenait difficile à faire vivre. Voilà.
Donc, c'est pas la faute de Georges. Voilà. C'est dit.
C'est pas la faute de Georges. Non. Georges nous a plutôt donné envie d'avoir les coudées franches pour le développer plus. Et donc, voilà, il m'a fallu du temps pour, quand on crée comme ça de toutes pièces un projet sans séparer, c'est un crève-cœur. Donc il a fallu attendre que ce soit mûr. Et puis voilà, en 2016, ça l'a été. Et je pense que c'était le bon moment parce que la presse gratuite était en train de s'écrouler, à vrai dire. Hein. Tous les gratuits qui existaient à Lyon à l'époque se sont arrêtés les uns après les autres.
Georges s'est lancé en 2016 parce qu'ici j'ai un
2009.
Numéro... Ah,
2010,
voilà. 2010. Ouais, 2010. Ça, voilà, tu vois, ça c'est le tout premier Georges que j'ai acheté. Ouais. Je l'ai acheté au Salon de Montreuil et il date de 2014. Et ça, c'était vraiment la première fois que je vous ai rencontré. Bon, c'est le numéro chaussure, hein. Il remonte un tout petit peu.
C'était un numéro dans lequel... Ah non, tu étais pas encore dedans.
J'étais pas encore dedans. C'est le numéro que j'ai acheté et que je me suis dit, je veux être dedans.
Donc Georges...
Georges se lance en 2010 et Grain de sel et tu revends Grain de sel en 2016, c'est ça. Donc c'est en ça que c'est un peu concomitant.
Ouais, exactement.
D'accord.
Ce que j'ai pas dit aussi quand même, juste pour terminer avec Grain de sel, c'est que en dehors d'emmener les gens découvrir des lieux un peu insolites, etc., on avait aussi laissé pas mal de place à découvrir des gens qui créent pour la jeunesse. Et notamment dans l'album. Donc il y a eu des contributeurs illustrateurs, il y a eu des gros plans sur eux, il y a eu des rencontres. Donc au fur et à mesure, dans le cadre de Grain de sel, déjà c'est amorcé un peu la rencontre entre un beau magazine là pour les familles, la place de l'illustration, la démarche des gens qui créent, qui font des choses de qualité, que ce soit en théâtre, en spectacle vivant, que ce soit en musique, que ce soit en cinéma d'animation. C'était vraiment un endroit extrêmement privilégié pour aller à la rencontre de ces créateurs-là et voir voilà qui s'implique et comment pour créer de façon exigeante pour les enfants. Et moi j'aime bien ce côté très pas cloisonner trop les choses. Alors c'est bon. Après, voilà, si je pouvais, je ferais du jouet, je ferais du. Ouais, j'aime bien pouvoir apporter un peu cette exigence et cette vision un peu de la production pour les enfants, mais qui dépasse juste le sujet du support papier, quoi. Mais en tout cas, voilà, première nouvelle aventure, Georges, sacrée aventure à nouveau.
Ouais. Et alors, j'imagine que la plupart des personnes qui nous écoutent connaissent le magazine Georges, mais pour juste les quelques personnes qui y découvrent, comment tu présentes un tout petit peu Georges? C'est quoi un peu ses spécificités? Qu'est-ce qui le rend unique?
Georges, qu'est-ce qui le rend unique? Je pense que c'est sa liberté de ton, de sa façon de son, bon, déjà son principe, hein, donc enfin son nom. Pourquoi l'avoir appelé Georges? Mais pourquoi pas? c'est dit de Stéphanie, l'âne. Elle a tout de suite eu envie, comme ça, d'un nom, je crois, qu'on puisse incarner un peu cette relation, que ça puisse être le fil conducteur du magazine et de la relation aux enfants. C'est Georges qui t'emmène. Et une fois, ça va être à la rencontre de sa tante. Une autre fois, en voyage avec lui, etc. Enfin, c'est lui qui te guide, qui t'emmène dans le numéro, et du coup, ben, il se tisse une relation, même s'il n'est jamais représenté avec avec ce fameux Georges.
Mystérieux, mystérieux.
et puis c'est ce truc de pas être d'être un magazine avec ce petit picto qui est le thème à chaque fois. Et on a commencé avec un numéro moustache, après on est passé sur un numéro valise, après un numéro trompette, un numéro ampoule, un numéro éléphant, un numéro machine à laver. Donc effectivement, là tout de suite, tu surprends.
Parce que tu proposes un magazine. Des bibliothécaires aussi. Oh, comment est-ce que je trie ça? Et des libraires, ouais, c'est ça.
Ah bah déjà, les libraires, on leur proposait, à l'époque, Georges avait un petit format, c'était un petit format A5, j'en ai pas malheureusement apporté là, mais un petit format A5, assez jusqu'au boutiste dans son parti pris graphique, puisqu'il avait trois bandes de trois couleurs différentes, et il y avait uniquement ça qui changeait sur chaque couve. Donc les libraires, certains ne voyaient même pas que ça avait changé en fait. Et tu retrouvais ces codes couleurs à l'intérieur dans les différentes parties. Donc c'était vraiment très très graphique. Donc il y avait aussi ce parti pris là qui le différencie, je pense, c'est de donner une place au graphisme qui est rare dans la presse, en tout cas pour la jeunesse. Pour la presse pour adultes, oui, mais pour la presse pour la jeunesse, non.
Oui, on est plutôt sur du plein illustratif, et des fois, bah, la partie graphique est un petit peu mise en sourdine.
Il y avait Télérama, je crois, qui avait fait un gros papier sur nous il y a 3-4 ans, et le titre, c'était Maison Georges, la maison d'édition jeunesse qui n'a rien d'enfantin.
Ah oui, c'est bien ça.
Et ça, tu prends ça.
Voilà, je prends ça. Non, mais c'est ça l'idée, c'est de pas faire... de pas faire mièvre ou gnangnan ou enfantin, justement, et de faire un mag que les parents ont plaisir aussi à acheter pour communiquer un peu des choses qui comptent. Et moi, je pense que voilà, c'est le fait que de faire du beau, un beau graphisme, il y a mine de rien, sans mettre de mots dessus, il y a une éducation à ça, c'est sûr. Voilà. Et après, bah, c'est de surprendre. Quand tu passes comme ça d'une thématique à l'autre, qui te sert de fil conducteur et qui permet d'y introduire l'humour, parce que le principe, c'est donc, par exemple, on va prendre le dernier, peut-être pas le dernier, mais le numéro dessin ou le numéro chocolat de Georges, qui sont des numéros plus récents. Dans la partie, donc Georges, c'est un tiers d'histoire, un tiers de jeu et un tiers d'activité à faire à la maison. Du graphisme, justement, de la cuisine, du bricolage, des expériences. Et à chaque fois, l'enjeu, c'est de trouver dans toutes ces activités au moins un petit truc rigolo, ne serait-ce qu'un jeu de mots qui va te permettre de raccrocher cette activité au thème. Et les enfants qui arrivent, qui voient ça, qui percutent là-dessus, ils sont dingues.
C'est clair. Et puis, il y a les fameux Pepper Toys.
Et les fameux Pepper Toys, tout à fait.
Qu'on peut télécharger sur votre site.
En plus, oui.
Et je vais, mon fils, il va être fou quand il va voir ça. Il adore ce genre de truc.
Ouais, c'est génial. Alors, c'est vrai que c'était pratique avec les bibliothécaires qui nous disaient « Ah, mais on s'abonnerait bien, Georges, mais votre Pepper Toy a découpé au centre. C'est quand même super embêtant parce que les enfants vont abîmer le magazine. Donc, pas de problème. Ils peuvent aller sur le site. On le note dans le magazine. Et puis, voilà, télécharger, imprimer chez eux et faire leur Pepper Toy sans abîmer leur mag.
T'as un numéro préféré? Une thématique qui t'a vraiment amusé à fond?
Tu voulais sortir absolument.
Moi, j'aime bien le fait de passer comme ça d'un thème à l'autre.
Oui, c'est comme dire lequel de tes enfants tu préfères.
C'est la collision que tu aimes bien, en fait. C'est de passer vraiment d'un thème qui n'a peut-être rien à voir avec le suivant. Il se passe quelque chose et après, ça crée des collections de thématiques.
Oui, exactement. Et puis, c'est aussi le parti pris. C'est comme ça un peu. On nous pose souvent la question de comment vous choisissez vos thèmes. L'idée, c'est de dire, voilà, on a fait un peu de science, on a fait un petit peu de voyage, on en a eu un numéro cerveau, un numéro Kenya, un numéro mythologie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah tiens, un numéro fourchette, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé forcément d'alimentation ou de, voilà, c'est de varier les plaisirs, et puis c'est à chaque fois, voilà, à chaque fois l'occasion de creuser un autre.
Vous fuyez les thèmes évidents, je sais pas, par exemple un numéro football quand c'est la Coupe du Monde, ou un numéro plage quand c'est l'été. Est-ce que quand même vous essayez d'être un petit peu en parallèle avec l'actualité, ou parce que je trouve vraiment que voilà, numéro fourchette, ça dénote totalement quoi.
Alors écoute, on essaie d'équilibrer pour continuer à avoir justement ce côté inattendu et pouvoir s'éclater un peu avec ça. Là, en février, c'était un numéro chance. Par exemple, où on a parlé des porte-bonheur, on a parlé d'une super histoire de Claire Schwartz avec un trèfle, etc. Nous on aime aussi beaucoup. Après, parfois on a essayé aussi un peu de faciliter le boulot des libraires, parce que on a un super des super repris, c'est les Belles Lettres qui nous diffusent en librairie, et même si eux sont fans de cette liberté-là, et parfois ils nous ont passé des petits messages en nous disant « Ok, alors, si vous faites un numéro squelette, si vous pouvez plutôt nous le faire en octobre plutôt qu'au mois de février, soyez cool, faites ça. »
Oui.
Parce que ça nous facilite le travail. Et pourquoi pas, finalement? Parce que, après, moi, c'est aussi tout mon boulot, et j'aime bien ça dans ce travail, c'est d'être à la fois à la création de chacun de ces magazines où tu remets tout sur le métier, d'être en même temps le garante de la ligne graphique et éditoriale, pour que tu puisses au fur et à mesure dire tiens, ça c'est Maison Georges, ça serait chouette d'arriver à ça, et j'ai l'impression qu'on commence à y arriver. Et puis il y a aussi le fait un peu d'être chef d'orchestre et de piloter tout ça avec toujours un peu comme dans Grain de Sel, finalement, un mélange d'audace et de pragmatisme, et c'est un peu ma fierté, parce que c'est vrai que faire des belles productions comme ça, c'est une chose, réussir à les faire vivre dans le temps, à les maintenir en vie,
à se renouveler,
c'est un autre boulot. Du coup, il faut un peu de pragmatisme. Il faut un peu, à un moment donné, donner un petit coup de main aux libraires qui n'ont pas forcément toujours compris complètement aussi l'originalité de Georges, et c'est quand même, ils sont super importants, parce que c'est notre réseau principal de diffusion. Et le truc, c'est que la presse en librairie, c'est déjà super compliqué. Donc, si tu leur donnes pas le petit coup de pouce pour qu'ils te mettent au moment des vitrines d'Halloween le numéro squelette à mettre en vitrine, tu te tires un peu des voilà, les bâtons dans les roues.
Que d'autres vont le faire.
Voilà, exactement. Donc on essaye de.
Mais c'était vraiment
de...
un peu. Non, pardon, je t'en prie, excuse-moi.
Non, vas-y.
Non, bah en fait, c'était vraiment une question que j'avais, parce que voilà, votre magazine, il fait preuve d'une grande exigence autant sur le fond que sur la forme, graphisme, la typographie, l'illustration. Vous existez depuis 13 ans. Vous êtes bien installé dans la presse jeunesse. Pour autant, on peut pas dire que vous êtes entièrement devenu mainstream. Et on vous trouve pas encore partout. Mais comment vous avez fait pour rester pérenne, je veux dire, justement, avec ce niveau d'exigence, là où d'autres magazines, justement, qui ont peut-être tenté de faire pareil que vous, se sont peut-être un petit peu, on va le dire tout bas, un petit peu cassé la figure. Vous êtes toujours là. Comment vous avez fait?
Écoute, comment on a fait? Je pense moi, j'ai capitalisé un petit peu sur l'image qu'on s'était construit, et la sympathie aussi. On a des chouettes relations avec les gens avec lesquels on travaille, qu'ils soient journalistes, en l'occurrence pour l'époque de Grain de Sel, illustrateurs, partenaires, notamment sur le bassin lyonnais. Et donc, il nous est arrivé un truc à un moment, assez vite, après la création de Georges, c'est qu'il y a des structures qui nous ont contactés en nous disant on est juste complètement red-dingue de Georges, et on voudrait que pour nous vous fassiez un petit Georges, et vous avez carte blanche. Ça a commencé par l'Opéra de Lyon, qui nous a dit on a besoin de renouveler notre lectorat, on veut même pas vous guider, on vous fait visiter, on vous emmène dans les coulisses, et faites-nous un petit Georges Opéra de Lyon, s'il vous plaît. Et ce qu'on aime chez vous, c'est la fraîcheur et tout ça. Et j'en parle parce que ben cette activité qu'on a toujours aujourd'hui, de conception de cahiers de jeu un peu sur mesure, ben nous apporte une vraie bouffée d'oxygène qui nous permet de garder la totale indépendance à côté. Ah, t'as le nouveau, moi je l'ai même pas, dis donc.
Mais oui, j'y suis allée ce week-end.
On l'a même pas reçu.
Donc voilà.
Voilà, c'est le nouveau exposition.
Si, ça fait le point.
Basquiat, Warhol, à la Fondation Vuitton, on a travaillé avec le duo Cachette et Jacques.
Ouais.
Voilà, et donc là, on met tous nos ingrédients, notre expertise sur le ludopédagogique, le fait d'en faire un truc, un support beau. Ils bataillent un peu à la Fondation Vuitton parce que quand ils les laissent sortis, les gens les prennent pour eux. Donc, ils se rendent compte que les adultes les prennent pour jouer et pour les ramener chez eux aussi.
Je confirme, j'en ai pris plusieurs.
Voilà, donc
c'est en anglais.
Oui, on a fait une version anglaise et une version française. Donc ça a été un peu une des soutiens, une des jambes sur lesquelles on marche aussi, et puis aussi l'occasion de se confronter à des contraintes qui sont stimulantes. Là, on débute une collaboration avec les musées de l'Isère, par exemple. Ça va être des chouettes contraintes pour arriver à mettre ça à la sauce Maison Georges. Donc voilà, c'est à la fois un super exercice et à la fois financièrement, on n'est pas là à se retrouver avec la contrainte de la vente ou de la non-vente, des retours, du prix du papier qui augmente. Et comment on fait pour maintenir un magazine à 9,90 € alors qu'on s'en prend plein la vue depuis 3 ans. Et ça, j'ai pas encore la question d'ailleurs, j'ai pas encore la réponse, pardon. Pas pour tout vous dire, pour l'instant, on maintient le prix. Voilà, donc l'idée c'est de développer un univers en fait, de continuer à bien faire ce qu'on fait. Et puis, alors, ce qui a permis à Georges d'être encore là, je pense, c'est l'arrivée de Graou aussi.
Oui.
C'est l'occasion d'en parler.
On va pas dire que c'est le petit frère parce que vous aimez pas qu'on dise que c'est le petit
ouais,
frère, il me semble.
Exactement. Voilà. Donc,
Pourtant, tu l'as oups, déjà dit, Jérémy. J'ai vu l'ancien tweet.
Oui, donc Raoult, ça a été une nouvelle aventure dans l'aventure, mais on a aussi pu capitaliser vraiment là sur notre expérience pour pas refaire les erreurs du début de Georges, si on peut dire.
Alors on n'a pas précisé. Hein.
C'est quoi, Graou,
ouais. 7, 12 ans et Graou au plus petit.
Voilà. Alors Georges,
ouais,
le tout
ça.
Dernier, c'est un numéro écologie, par exemple, ou le numéro lune qui était le numéro chance d'ailleurs, mais je l'ai pas. Le numéro lune qui était celui d'avant. Donc voilà, c'est un dos carré, un format 20 par 26. Et ça, c'est Graou. Tout légèrement plus grand, on est sur la tranche d'âge du dessous.
Ouais.
Et là, avec le même principe, on passe le numéro sur l'eau qui vient de sortir, le numéro sur les gâteaux. Donc là, il est incarné parce que c'est nécessaire pour
la mascotte.
Une petite mascotte
pour la mascotte. On m'apporte en direct le numéro chance.
Oh là là. C'est beau cette équipe là.
Vous avez cette équipe.
Je prendrai un café s'il vous plaît.
Donc on a joué le jeu, voilà, de la création de ce personnage qu'on découvre dans les numéros avec ses frères, ses sœurs, sa famille, etc. Et toujours après avec un certain nombre d'illustrateurs invités. Là, c'est Lisa Lobro pour une histoire qui est géniale d'ailleurs. Voilà, et des jeux et des Virginie Morgan là sur un
abécédaire.
À Miguel Bustos sur une rubrique voyage qu'on a à chaque fois. Que du beau monde. Voilà, donc 3-7 ans, plus facile.
Pourquoi ?
Plus facile parce que c'est la tranche d'âge où les parents sont complètement prescripteurs à 100%. Alors que quand t'abonnes un enfant à 8 ou à 9 ans, tu lui dis « alors ça t'a plu, tu veux continuer ?»
Il va donner son avis.
Finalement, j'ai envie de passer un truc sur le foot ou un truc sur la science ou etc. Alors que sur Graou, c'est plus simple comme tranche d'âge.
Est-ce que c'est possible de dire que Graou a sauvé la mise ou est-ce que ça j'ai l'impression que c'était un peu un game changer quand même.
C'est toutes les briques en fait.
Ouais, c'est toutes les briques.
Ça, c'est toutes les briques. Moi, Georges, c'est le fondement quoi. C'est le nouveau fondement de la maison.
Ouais.
Et il est super important parce que il y a tout notre ADN dans Georges. Voilà, et puis souvent on est plutôt amené sur les cahiers de jeu à être sur la tranche d'âge de Georges, donc on continue aussi à travailler notre expertise sur comment tu te renouvelles, comment tu t'adresses à cette tranche d'âge là. Et puis surtout, et là ça fait le lien avec une autre partie de la maison, c'est les albums. Ouais. Et c'est quasiment que des auteurs illustrateurs qui ont travaillé dans Georges.
Ah voilà.
Qui ont avec lesquels on a porté ces projets de d'albums, mais qui ont celui-ci par exemple, il était une forme, je pense que la liberté de Georges, c'était un projet de cruciforme à l'origine,
et Gazole, ouais.
Et un projet d'études d'école. Et en fait, elle l'avait pas fait vivre. Et quand on lui a laissé carte blanche pour imaginer une histoire dans un des Georges, elle s'est dit, allez, c'est maintenant que j'utilise ces principes modulaires là de généalogie des formes. Et donc, ils ont créé. Il était une forme dans Georges, et après on s'est dit on peut pas laisser ça comme ça et pas essayer d'en faire un projet qui soit plus ambitieux. Et donc c'est comme ça qu'est né Il était une forme. Mais du coup Georges, pour moi c'est vraiment notre laboratoire. C'est là qu'on se permet plein de choses avec des auteurs, des illustrateurs, et c'est super riche comme échange, et on apprend à faire connaissance dans le cadre de ces revues. Et après, il y a des histoires qui se créent, ça se passe super bien et on a envie de faire un livre ensemble, et on est plutôt parti pour les livres qu'on a pu faire, pour en faire plus qu'un. Donc avec Cruciforme, il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux. Avec Eva Ofredo, il y a au Japon qui a aussi l'aventure a commencé dans Georges, dans le Georges numéro au Japon en l'occurrence. Lisa Lobro, là, il y a mon bateau qui est derrière mon bureau. Là, notre prochain album, c'est un album qui sort là début juin avec Lisa Lobro. Gaëlle Almeras aussi avec Les Super Weekends, Pampier Gori, Stéphie Brocoli. Ça, voilà.
Oui, Stéphie,
les Super Weekends avec Gaëlle, qui travaille sur le troisième et qui sont des très très chouettes succès. Les Pampier Gori aussi, évidemment, qui sont des héros récurrents dans Georges. Ouais. Donc ça c'est encore autre chose, c'est plus une BD un peu album BD d'humour plus, et c'est quelque chose qu'on va continuer.
Elle est en librairie, vous pouvez pas les louper. En général, ils sont bien avant.
Et puis oui, Stéphie Brocoli pour oublier personne. Donc là c'était plus c'est plus une compile de rubriques parues dans Graou. Raconte-moi, qu'on a édité en album parce que voilà, on adore son univers. Et...
Ah oui, non mais vraiment magnifique, Eva Ofredo.
Ah ouais, magnifique.
Son livre est dingue, franchement.
Et puis très belle rencontre aussi. Et puis voilà, c'est chouette de se retrouver comme ça sur la même longueur d'onde dans ce qu'on a envie d'offrir aux enfants.
Ça fait complètement sens, ouais.
De leur proposer, voilà.
Est-ce qu'on pourrait dire du coup que le magazine Georges, c'est un peu votre matrice, et de ça sont nés des tonnes d'autres projets? Je pense, par exemple, vous avez fait Georges, et puis à la Fondation Louis Vuitton qui dit, est-ce que vous pouvez nous faire un petit Georges pour nous? Vous avez donné une carte blanche à Cruciforme dans le magazine, et hop, il y a un livre qui en est né. Il y a eu plein de... J'ai l'impression que ça vraiment a été un petit peu le laboratoire qui a permis à Maison Georges de se...
Oui,
prendre de l'ampleur, quoi. C'est votre secret power, le magazine.
C'est super important.
Je pense qu'on a oublié de présenter l'équipe. Si tu veux bien nous
oui,
présenter.
Oui, j'ai parlé que de Stéphanie, mais c'est super important. On est vraiment.
Ce qu'il faut juste redire, je prends un petit peu la parole. C'est que Stéphanie a été très importante pour le lancement graphique en fait de Georges. Et j'avais justement cette petite question qui me trottait avant qu'on présente toute l'équipe. C'est quel niveau de confiance en fait tu portes justement à Stéphanie au moment de lancer Georges, parce qu'en vrai ça a été un vrai laboratoire graphique. C'est ça qui est assez impressionnant.
La question c'est quelle
Oui, en fait voilà, c'est OK, question pourrie, Laurent, tu recommences. Je la refais. En vrai, moi, ce qui me fascine en fait, c'est la confiance en fait que t'as apporté à Stéphanie pour le lead graphique en fait sur Georges. Je trouve ça incroyable.
En fait, quand j'ai reçu la candidature de Stéphanie un jour dans ma boîte mail et que j'ai ouvert son book et je me suis dit ok, c'est bon. C'est bon, c'est sûr, c'est elle. Et ça m'a refait ça avec Aurélie Kousker, qui est donc l'autre graphiste de Maison Georges, qui elle s'occupe de Graou.
De Graou,
et
ouais.
Du coup, ça fait un super team. Et c'était important, je trouve, pour Stéphanie aussi qu'elles sont, c'est chouette qu'elles soient deux et que ça fasse un peu un pool dans la maison d'édition. Elles peuvent échanger exactement sur le même métier, les mêmes problématiques.
Ça crée une identité forte aussi entre.
Et puis ça crée une identité forte. Ouais. Écoute, ça a été naturel du coup vu que je suis pas du tout graphiste. Hein. J'ai l'œil graphique et je suis contente de. Enfin, je me sens à l'aise dans le fait de chapeauter la cohérence graphique de Maison Georges, mais par contre elles sont DA chacune aussi sur leur magazine et c'est les yeux fermés hein, sur le choix des illustrateurs sur voilà. Après le contenu c'est une autre histoire, écrire pour des tranches d'âge, gérer, piloter des relations avec des auteurs, c'est vraiment un métier et donc avec le temps et aussi l'exigence qui est montée par rapport à Georges, en fait. Une petite chose à raconter aussi sur Georges par rapport au début. Donc, il y a toujours eu ces trois parties. Les histoires, les jeux et les activités qui s'appelaient les rubriques à braque au début. C'était surtout l'univers graphique des illustrateurs qu'on sollicitait ou qui venaient à nous et à qui on disait oui banco trop trop chouette, on a envie de travailler avec vous, qui pilotait l'ensemble et moins l'écriture. Notamment par rapport à la grande histoire dans Georges. Donc on a pu travailler notamment avec Isinori ou avec vraiment des illustrateurs bon, par exemple on a eu un numéro Shampoing, on voulait absolument travailler avec Anouk Ricard mais du coup elle se sentait pas d'écrire l'histoire.
Ah, ouais.
Et du coup elles ont fait un duo avec Delphine Perret pour écrire cette histoire, mais ça a été du coup un peu plus long à mettre en œuvre. Et puis plus c'est allé, plus on s'est rendu compte, parce qu'on a fait des ateliers avec des enfants ici, chez Georges, pour qu'ils nous racontent qu'est-ce qu'ils aimaient dans le magazine, de quoi ils avaient plus envie et tout. Et il y a vraiment unanimement une demande de BD. Et donc, à ce moment-là, on a décidé vraiment de travailler plus avec des auteurs et on a réparti un peu autrement les rôles dans l'équipe. Voilà, toute la graphisme, le choix des illustrateurs, etc. Aurélie et Steph ont les coudées franches, même si moi, j'adore aussi... travailler avec elle sur le choix des illustrateurs, mais à un moment donné, je peux plus trop être au four et au moulin.
Ouais.
Et par contre, sur l'édito, c'est plutôt moi et Anne, surtout Anne Bensoussan, qui une très bonne éditrice et qui elle gère les relations vraiment d'auteurs, de narration, de rythme, de comment tu ficelles une histoire sur 5 doubles, parce que effectivement, on s'adresse à des enfants de 7-12 ans et c'est chouette qu'on veuille leur partager un sens de l'image et tout, mais ils ont envie d'histoire en fait, de BD qui les fasse rire, qui les surprenne. Donc
ça doit être tellement grisant de pouvoir approcher toutes ces superstars de l'illustration, toutes ces personnes, même pas que des superstars, hein, des personnes qui débutent ou quoi, mais des personnes avec qui vous avez des vrais coups de cœur, et de pouvoir faire à une petite échelle, vu que bon, même si si ça peut se répéter, mais c'est genre un article, un jeu, une BD dans une revue, et c'est cette sorte de grande famille d'illustrateurs, d'illustratrices qui contribuent à ton bébé, quoi, à ton projet. Ça doit être
ouais, c'est super chouette. C'est parfois un petit peu frustrant de pas plus les rencontrer, tu vois, de pas plus pouvoir discuter. On a parlé que des trucs géniaux dans l'aventure.
Qu'est-ce qui n'est pas génial, Anne-Bénédicte Guignoux?
On travaille dans une super imprimerie.
Non,
les trucs pas géniaux, c'est le nez dans le guidon, c'est produire beaucoup pour réussir à rester dans le paysage. C'est aussi ça la clé du succès, c'est qu'à un moment donné, faut pas se
reposer sur ses lauriers.
Voilà, faut pas se reposer sur ses lauriers. Et donc, parfois, on se dit qu'on aimerait savourer un peu plus, prendre un peu plus le temps de voilà.
Ouais, faut produire,
ça, quoi. C'est voilà, c'est
Ah, le capitalisme.
Mais c'est voilà. Pour faire des beaux objets et des, oui. Voilà, des belles choses avec des belles personnes.
Et du coup, vos magazines sont très connus et appréciés par la communauté des illustrateurs, des illustratrices. Ça devient presque une vitrine, voire une carte de visite pour certains. Voilà, c'est une grande collection. Vous avez eu pas mal de copains copines à nous, par exemple Cruciforme, Sébastien Choix, Stéphie Brocoli, Aurélien Janet, Charlotte Mola, Virginie Morgan, voilà, et plein d'autres qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Mais voilà, c'est un peu la question à 1000 points, mais comment la collaboration avec les artistes se passe-t-elle? Et puis surtout, comment tu choisis les artistes avec qui tu aimerais collaborer? Au-delà, évidemment, de l'esthétique et du goût. Quoi.
Les milliers de mails que vous devez recevoir.
Alors, je te réponds. Je redis une petite chose, parce que je voudrais pas oublier sur l'équipe, il y a encore deux autres personnes. Donc, on est 6,5 aujourd'hui. Il y a donc 2 graphistes. Il y a Anne qui est éditrice avec moi, qui s'occupe aussi des relations avec les institutions, CNL et toutes ces choses-là, les dossiers et tout ça. Il y a une personne qui s'occupe un peu de la relation aux abonnés, parce qu'en lançant ces magazines, on se rendait pas compte exactement de ce que c'était ce métier-là. C'est super de prendre des abonnements, et puis au bout d'un an, ils arrivent à échéance, et ça se gère. Et pour ça, il faut des outils, et c'est très compliqué avec les magazines jeunesse, parce que tu perds tes abonnés très vite. Mmh. Et c'est ce qui rend principalement notre boulot avec les magazines difficile, c'est qu'on renouvelle tout le temps, tu capitalises pas sur ton... Tu capitalises pour 2 ans ou 3 ans. Mmh. C'est surtout que tu as du mal à faire progresser ton nombre d'abonnés, en fait, parce que tout le temps, faut aller en chercher des nouveaux.
Ouais, ceux qui partent sont remplacés, et du coup, ça te fait une espèce de...
Donc, tu restes un peu...
Ok, d'accord. Mmh.
Donc, elle gère les relations abonnées, la fidélisation, les colis, etc. Et puis, une autre personne qui s'occupe plus du digital, qui nous a rejoint, le marketing digital, les partenariats et tout ça, voilà, qui s'appelle Héloïse. Donc comme ça j'ai pu et puis une nouvelle personne qui est en train d'arriver et qui va plus s'occuper un peu des bibliothèques, des écoles et un peu d'autres choses dont on n'a pas suffisamment le temps de s'occuper. Pauline.
Ah oui. Ça devient quand même grosse équipe.
Ça devient un peu grosse équipe.
Faire en sorte que le bateau.
Faudrait que ça s'arrête là, je pense.
7 personnes pour toi, c'est le bon nombre pour l'équipe.
Ouais, c'est pas mal.
C'est déjà pas mal, hein, franchement, 7 personnes, c'est beaucoup.
Surtout que ça se gère. Alors on s'entend toutes très bien. C'est très collaboratif. Moi, j'aime bien partager.
Que des femmes,
ouais.
Il me semble.
À l'époque de Grincelle, il y avait des hommes, ouais. Mais okay. Là, sur les recrutements qu'on a faits, c'est que des femmes. Mais ça fonctionne bien.
Ah c'est sûr.
Donc non, c'est une super chouette équipe. Et Stéphanie, ça fait plus de 10 ans qu'elle est là, 14 ou 15 ans. Anne aussi. Enfin, c'est des histoires qui durent parce qu'on est tous passionnés par ça. Voilà, ça c'était la petite parenthèse équipe. Les illustrateurs, les collabs.
Les collabs avec les illustrateurs. Parce que voilà, genre vous êtes connus. Il y a sûrement plein de gens qui aimeraient être dans vos pages.
Alors,
comment ça se passe?
On reçoit énormément de sollicitations. Beaucoup, beaucoup à l'international. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, dans les pages de Georges et de Graouf, même on...
So French.
Yes.
Mais justement, on n'a pas parlé, c'est traduit dans combien de langues? Et où est-ce que ça a été acheté par d'autres?
36.
Alors c'est surtout Graou qui a été acheté à l'étranger, mais c'est quand même c'est surtout sur les livres en réalité qu'on arrive à bien travailler voilà. Sur les revues, pas beaucoup d'éditeurs ont envie de se lancer ou se sentent armés pour lancer une revue parce que c'est une autre machine en fait qu'il faut que tu réussisses à aussi générer de l'abonnement, à communiquer sur cette périodicité et tout ça. Et je pense, c'est pas de là que viennent les contributeurs étrangers. Je pense que c'est plus de leur réseau. Et puis à partir du moment où tu commences à avoir 2-3 Anglais qui sont assez connus, qui sont assez suivis, qui publient sur leur page quand il y a une
Owen Davy, par exemple.
Voilà.
Owen Davy, j'allais le dire. Owen Davy, Olympia Zagnoli,
mais qui parle anglais. Alors Olympia, on a travaillé une fois ensemble, mais après on a réessayé. Je pense qu'elle était plus accessible pour nous.
C'est vraiment du très haut.
Owen, il a dit oui pour effectivement le numéro Kenya, et c'était assez incroyable.
Il a bossé pour Popic, il est assez abordable.
Oui, ben voilà, on se disait, on va aller, on essaye, hein, on peut toujours, voilà, on peut toujours rêver. Après, Eliott Kruczynski, Tanja Esch, Christina Spano, avec laquelle on aime beaucoup travailler, une italienne, Peter Allen, enfin voilà, énormément de Miguel Busto, j'en ai parlé, Ben Tardif, Lydia Nichols,
qui est, ouais, que j'aimais trop.
Japonais aussi, j'ai pas retenu son nom.
Oui, Takashi Kuno, je crois, dans le numéro piano.
Oui, voilà, exactement.
Mais comment ils vous découvrent? Donc en effet, ils en parlent peut-être sur leur réseau, mais je veux dire, c'est quand même
le
très
japonais
français,
là,
George,
la petite George. Histoire, dans les collabs qu'on a faites un peu sur mesure, il y a les restaurants Matsuri qui nous ont demandé de créer des petits cahiers de jeux
sur
le Japon.
J'ai découvert le en allant chez Matsuri. J'étais ouais,
trop bien.
Et donc ça, c'était il y a un petit moment, on en a fait 4-5, je crois. Et à une ou deux reprises, ils nous ont demandé si on pouvait essayer de trouver que des illustrateurs japonais.
Ah, pour vraiment
c'était une de nos contraintes. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et on est resté en contact avec Takashi. Et donc, on lui a commandé une histoire. Alors, on était un peu fou, folle d'ailleurs, parce que du coup, il l'a écrite en japonais et on l'a... et après, on l'a traduite. Mais si tu veux, par rapport au rythme, on fait 12 magazines par an. Les 6 de Georges, les 6 de Graou et tout, c'est quand même assez tendu comme rythme.
Plus
donc on
livre,
se met voilà, plus driver quelqu'un comme ça quand t'es pas dans la même langue sur une histoire, sur un jeu c'est autre chose, mais sur une histoire avec tout l'enjeu de la narration, du rapport texte image etc et tout, ça commence à devenir voilà plus costaud. Et après oui, donc voilà, il y a toutes ces demandes, toutes ces sollicitations, on n'arrive pas forcément à répondre à tout le monde. On répond, on essaye de répondre quand on sent que c'est pas du tout l'univers. Ça veut pas dire d'ailleurs forcément qu'on n'aime pas toujours, mais c'est parfois que pour réussir à avoir cette cohérence graphique, quand tu feuillettes et que comme ça t'es sur des projets de magazines multi-illustrateurs et que tu veux garder un univers cohérent, ben il faut trier. Et ensuite, on classe dans un tableau tous les illustrateurs avec lesquels on aimerait bien travailler et qu'on garde en tête parfois pour des traitements. On va pas choisir le même illustrateur si on veut faire un chercher-trouve fourmillant ou si on veut faire une affiche. On aime bien aussi faire des décodages d'affiches, une affiche un peu avec un petit look un peu vintage ou voilà.
Donc ce tableau en fait, il vous aide à gagner du temps en fait sur quand vous avez les thématiques pour garder le tableau et il y a des évidences qui apparaissent.
Exactement.
Ok.
Et puis aussi après on pense évidemment à des illustrateurs. C'est vrai qu'on nous a toujours, on nous a souvent dit, notamment quand on rencontre les illustrateurs plus en physique à Montreuil. Au départ on nous disait ah mais j'aimerais trop bosser pour Georges, mais en fait votre traitement c'est quand même super vectoriel, il n'y a pas de place pour des choses plus dessinées etc. Et on a cheminé par rapport à ça. Avec cette volonté aussi de d'ouvrir et de faire découvrir aux enfants d'autres choses. Et là, par exemple, je vois le numéro Moyen-Âge qui est sorti. Ouais. Voilà.
Ah, j'adore l'enluminure jugée. Je l'avais vu.
Ouais, il y a vraiment boulot sur les... Là, c'est le numéro dessin maintenant, sur les couvertures de Stéphanie, hein, puisque toutes les couvertures sont de Stéphanie, où c'est chouette de faire rentrer le titre Georges un peu dans le thème. Là, c'est le numéro baleine. Voilà. Et donc là, par exemple, on a, sur le numéro Moyen-Âge, fait appel à Juliette Mancini, dont on connaissait le travail chez Atrabile, sur son livre, là, sur les chevalières. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus dessiné et qui change vraiment. Et donc, on se laisse plus cette liberté maintenant. Aussi pour travailler plus avec vraiment des vrais auteurs de BD, pour cette partie histoire.
Ouais.
Donc là, c'est le Moyen-Âge, on a pensé à elle parce que on avait lu des choses d'elle avec une esthétique sur cette thématique-là qui nous plaisait bien. Donc voilà, c'est un mélange entre des gens qu'on connaît bien, dont on sait aussi que ça va être hyper fluide dans la commande, dans la relation, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, des gens qu'on connaît pas du tout et dont on s'était dit ah mais ça serait super un jour quand on aura une carte à faire ou quand on aura un labyrinthe hyper dense, hyper fourmillant, ce type de traitement se prêtera bien. Et puis aussi les thèmes et puis aussi la disponibilité, parce qu'on est vraiment parfois dans des timings un peu courts. On travaille au moins sur 3 Georges et sur 3 Graou qui sont débutés ou en finalisation en même temps.
Donc c'est trimestriel, ah oui. On va dire les productions.
Bah là par exemple on boucle dans les 15 jours qui viennent celui qui sort en juin, juillet, août, mais on se prépare à présenter début mai aux représentants le numéro de septembre et le numéro de novembre. Et pour les représenter aux représentants, il faut qu'on ait fait okay. tout le comité éditorial, ouais. il faut qu'on ait décidé des rubriques, il faut qu'on ait commencé à commander des jeux pour que eux puissent avoir des choses pour leur tournée à présenter aux libraires. Donc on a toujours 3 numéros de chaque ouverts en même temps. Mmh. Plus le reste.
Okay, ouais.
Voilà.
On a Charlotte justement dans le chat qui demande combien de temps faut-il pour créer un magazine? Est-ce le même temps pour Georges et Graou?
Un petit peu plus de temps pour Georges. Il a plus de pages déjà, il fait 60 pages.
Il est plus vieux, faut le bichonner, ses petites habitudes.
Combien je dirais un mois pour Georges?
D'accord.
Un peu plus, un peu moins, selon le numéro, des thématiques un peu plus compliquées, entre 4 et 5 semaines et Graou entre 3 et 4 semaines. Ouais.
Oui, quand même. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un, à un illustrateur ou une illustratrice qui aimerait travailler avec vous? C'est quoi un peu les bonnes pratiques?
C'est pas facile parce qu'on reçoit énormément de sollicitations, de mails, donc c'est pas facile de se dégager, enfin de sortir un peu du lot. Moi, je dirais que le message, le mot d'accompagnement, au-delà du book, je trouve qu'il est important d'essayer de dire à quel point de créer un peu du lien par ta perception, qu'on sente déjà d'emblée en lisant le début du mail que la perception est partagée de ce que tu as compris du magazine ou des magazines, de ce qu'on fait et de l'adéquation que tu penses avec ton travail. Après, c'est vrai que parfois on reçoit des mails extrêmement impersonnels et juste avec un book, etc. Puis parfois il y a des mails beaucoup plus travaillés et quand tu ouvres le book hyper excité par justement ces quelques petites phrases de prise de contact, t'es un peu désappointé de voir à quel point la personne qui t'écrit te dit je colle tellement à votre univers que c'est sûr que ça va le faire. Et quand ouvres, tu te dis, comment, non? ou alors vraiment très éloigné, tu vois, très classique.
Non, mais c'est bien, voilà. C'est super que tu le dises parce que c'est pas facile, évident à dire. Ouais, et on se met à ta place et tu dois aussi avoir une vision aussi pour ton projet, c'est important.
Ouais.
Et c'est vrai que voilà, après, c'est jamais facile de dire aux gens, non, ça correspond pas, tu l'as pas vu, mais ça correspond pas.
Je me souviens quand au début, parfois on n'a pas cette conscience là de pas vraiment fitter. On se dit qu'en fait notre travail pourrait fitter avec des tonnes de lignes édito et moi je me souviens que j'étais sincère et que plusieurs fois on me disait je suis pas sûr que ça fit ou bien voici un peu les conditions et moi j'avais l'impression que c'était une sorte de couteau suisse que je pouvais tout faire mais en fait les personnes en face de moi avaient un bien meilleur regard que moi mais tout ça pour dire voilà que parfois en début de carrière on saisit pas et puis il y a un peu ce côté un peu tiré de manière super large pour essayer de décrocher désespérément un contrat qui nous met le pied à l'étrier et il y a un peu ce mythe peut-être vous savez de la personne dans l'industrie, l'agent ou l'éditeur qui va toi je vais te faire travailler, ça va te faire ouvrir les portes et
ouais.
Mais c'est un peu du mythe quoi, c'est pas simple à trouver un peu
après,
l'alchimie
le
combo gagnant
si tu y crois vraiment. Et c'est des fois aussi des questions de moment, de timing qui font que à un moment c'était pas le bon moment pour envoyer le mail. Et si tu y crois vraiment, tu peux réessayer 2 ans, 3 ans plus tard. Mais des fois ça peut marcher. Parce que
oui,
toi,
et puis on n'est pas à l'abri.
Voilà, ouais.
On n'est pas à l'abri de nous d'être passé à côté. Ça m'est déjà arrivé. De découvrir le travail de quelqu'un et je sais pas comment j'en viens à taper son mail dans ma boîte mail et me dire ah zut.
Il y a déjà
il a écrit il y a 3 ans.
Il y avait déjà.
Ça c'est très rigolo.
Mais il était pas encore prêt peut-être.
Ouais, ça m'arrive, j'avoue. Ça m'est arrivé. Donc c'est pour ça que il faut pas hésiter en effet, je pense à d'ailleurs c'est assez chouette, il y a des gens avec lesquels on bosse de temps en temps et qui envoient c'est pas harcelant du tout, mais qui disent voilà, regarde, enfin voilà, je partage les projets que j'ai pu faire. Ça c'est assez riche aussi.
Je te remercie que tu dis ça parce que c'est un bon des tips. Conseils que je donne en général en book review, c'est n'hésitez pas à renvoyer de temps en temps votre actualité, pas forcément à chaque fois envoyer votre book, mais simplement votre actualité.
Je vous ai déjà écrit 5 fois.
Est-ce que ça va? À plus. Et voilà. Et des fois, bah, simplement, ça peut éveiller la curiosité et déclencher quelque chose chez la personne à qui on transmet l'info.
Ouais, c'est l'habitude d'apprendre.
C'est une autre manière de bêtement des
montrer les nouveautés.
Super conseil.
Voilà.
On peut passer aux questions-réponses, ou est-ce qu'on a oublié des points importants? Je crois.
Ouais. Non, tout à fait. Alors, je veux faire honneur à Quentin Star qui a
Quentin Dron.
Ah, c'est Quentin. Quentin, il met tout le temps des pseudos à chaque fois différents. Mais très militant Quentin qui mettait est-ce que Georges et Graou sont des outils de combat face aux autres produits nauséabonds proposés aux enfants? Se sentent-ils investis d'une mission? Georges versus Petit Ours Brun, fight. Et je sais que tout à l'heure, il citait aussi Pat Patrouille. La culture
du bon
mot.
Il a des enfants bas âge,
il est remonté. Oui, il a pas l'air content, ouais.
On n'est pas forcément très belliqueuse, nous, de nature. et pas non plus, on essaie de garder un peu les pieds sur terre. Et on n'est pas, comme tu disais tout à l'heure, Jérémy, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir en termes de notoriété et tout ça. Donc, on reste, on essaie de rester à notre place, de rester modeste et tout. Après, moi, j'ai l'impression, et c'est une des choses qui me fait lever le matin,
et oui, c'est la question traditionnelle
revient.
Normalement
elle
d'ouverture.
Revient,
c'est beau, c'est bon. Wink, wink.
J'ai l'impression que vraiment la façon dont on travaille a du sens dans ce qu'on essaie de proposer aux enfants.
Créatif
en effet, et qu'il y a un engagement dans notre façon de faire de la revue, de la produire. D'y mettre une exigence un peu folle, enfin vraiment il est énormément relu, il est voilà, attends, j'ai perdu le fil avec la question,
c'est cette histoire de
quoi? Ah oui.
Mais est-ce que c'est entre le bon goût et le entre guillemets mauvais goût? Après bon, ça se discute, le mauvais goût. Moi, j'avoue, on regarde pas de patrouille à la maison. Hein. Désolé, Quentin, si je baisse dans ton estime, mais Félix aime pas de patrouille et je peux pas y faire grand chose.
Ce qu'aiment les enfants. Et des fois,
et c'est pas si mal, pas de patrouille,
ça, j'en sais rien, mais en tout cas.
Non, mais c'est. Non, mais
je suis moins fan de Petit Ours Brun.
Ils ont envie de voir et des fois, faut composer aussi. On peut.
Ils jouent à pyjamasque dans la cour de récré. Je peux pas les empêcher de
les
jouer à pyjamasque.
Hein. Des nouvelles choses en fait. C'est un petit peu.
Oui,
notre
voilà,
rôle
c'est
de
un
parents.
Peu ça le rôle des magazines. C'est pas forcément de dire les autres, font une qualité piètre, mais c'est de dire. Et c'est aussi ça un peu dans les albums qu'on produit. À quoi ça sert de faire la même chose que ce qui existe déjà, ou qui est d'ailleurs parfois pas si mal fait. Et nous, c'est de dire. Et tous les enfants ne flashent pas dessus, hein. Mais il y a des enfants qui adorent. Voilà, on veut que ce soit un beau magazine, on veut que ce soit soigné. Et les retours qu'on a, c'est que ils ont une place particulière dans la bibliothèque. Tu vois, il est plutôt un peu dans la bibliothèque familiale. On les garde, on les jette pas, on y revient. Et voilà, c'est plutôt ça notre. C'est un partage.
C'est joliment dit.
Voilà.
J'aime bien cette philosophie qui dit mieux vaut plaire à un groupe de personnes qui sont vraiment passionnées de ce que tu fais et d'autres qui disent ouais, c'est pas du tout pour moi, ça me plaît pas, plutôt que de faire un truc un peu milieu où c'est genre
tout simplement les personnes à qui on s'adresse pour qui on envoie le message,
qui tu le fais.
En réalité qu'on l'envoie pas pour le monde entier. C'est super hein, quand ça marche pour le monde entier et que c'est un gros succès, mais dans l'absolu on l'envoie pour spécifiquement pour des personnes qui vont être touchées. Et forcément, c'est pas le goût de tout le monde.
Ouais. Il y a Marie qui dit, je pense que c'est pas une question de bon ou de mauvais goût, mais plus une question de fond. Donc, je pense
oui, bah, il y a le fond aussi. Évidemment, on essaye aussi de faire attention aux activités qu'on propose, d'être à la fois dans un truc didactique mais pas chiant, d'être de voilà. L'idée c'est aussi de s'amuser, hein. C'est découvrir plein de choses, mais c'est ça, hein, c'est d'être et c'est en cela que le magazine, avec toutes ses contraintes, c'est un super projet à porter pour une maison d'édition, je trouve. C'est que tu peux expérimenter plein de choses. Et tu expérimentes des trucs différents d'un numéro à l'autre. Et puis, le truc génial, c'est que tu as du courrier des lecteurs et des lectrices. Donc ça, c'est le petit plaisir du matin.
Ah oui, c'est grisant.
On rit, on en pleure parfois même.
Ah, c'est génial.
Il y a des relations qui se nouent avec des enfants. Il y a une correspondance entre Stéphanie et le petit Raphaël, par exemple, qui est plus si petit maintenant, qui a créé son petit journal avec ses sudokus, qui l'a envoyé à Steph, qui lui a demandé son avis. Il y a une vraie correspondance qui s'est créée entre Raphaël et Steph. Raphaël étant venu au bureau aussi, il y a des trucs aussi trop drôles, hein, parfois ça frappe, tu vas ouvrir la porte et là tu te retrouves avec un parent, avec l'enfant.
Avec un
qui
petit
dit,
fan qui est là.
Voilà, on lit Georges et on voulait juste savoir, ça ressemble à quoi le bureau de Georges. Donc ça c'est chouette parce que mine de rien, on a un beau lectorat maintenant avec les deux mags, donc c'est pas la notoriété de dingo, mais il y a quand même une vraie communauté qui s'est créée et donc ça génère du retour assez voilà, on a pas mal de retours et c'est super stimulant.
On avait une question de t'avais peut-être un truc à dire, Jérémy?
Non, juste de se rendre compte que d'une certaine manière, c'est peut-être un peu pompeux dit comme je veux dire, mais ça change un petit peu des vies, c'est peut-être un peu, mais genre il y a un vrai impact. Voilà, le petit Raphaël qui se retrouve devant vos locaux et qui a trop envie de vous rencontrer. Je suis sûr qu'il y a d'autres petits Raphaël à qui Georges a une place importante. C'est comme moi quand j'étais plus jeune, Spirou quoi. Je veux dire, Spirou, c'était ça m'a énormément
influencé. Tout est connecté, Jérémy, parce que moi j'ai un fan dans Spirou qui m'a écrit quand je travaillais pour Spirou pour savoir comment on faisait le pixel art et tout. Voilà, c'est trop rigolo. Ah oui, mais c'est marrant parce que du coup tu réponds à ton fan quoi. J'en ai un, donc c'est bien, c'est pas mal. S'il y a Quentin aussi qui m'aime bien. Quentin.
Bah c'est hyper touchant.
Et il y avait aussi une question de Laurette et je la trouve assez magnifique. Quels seraient, Anne Bénédicte, les projets rêvés pour toi aujourd'hui, alors que tu as déjà fait plein de projets de rêve?
Alors un projet rêvé, c'est et c'est pas simple à mettre en place. J'y travaille, mais c'est compliqué. C'est d'aller vers de faire vivre, de pouvoir aller plus loin avec les auteurs illustrateurs avec lesquels on travaille, notamment dans le cadre des albums, pour faire d'autres types d'objets que du livre et notamment du jeu et du jouet.
Ah mais j'ai vu, il y avait une collaboration avec Moulin Rôti aussi. Oui.
Mais vous en vendez déjà? Oui, c'est une
revendez
leurs produits.
Parce qu'on avait travaillé avec Aurélien Débat et puis qu'à un moment donné, on a vendu aussi les jouets de designer tchèque. Je sais pas si vous les avez vus, des jouets en bois qui sont encore peut-être un petit peu sur notre site, mais on a presque fini. C'est un studio magnifique. Si vous voulez jeter un coup d'œil, ça s'appelle Cthulhu. Ils font des jouets en bois. Je les ai rencontrés à Prague en allant à un calage chez l'imprimeur. Et avec certains des auteurs illustrateurs, on travaille là sur des dérivés de l'album. Moi, ce qui m'intéresse aussi, on n'en a pas forcément trop parlé, mais dans l'éthique un peu de la maison, c'est d'être ça s'est plus imposé à nous à l'origine, et maintenant c'est devenu un vrai choix d'être sur quelque chose de raisonné sur la production. Et en fait, on a décidé de maintenir un rythme de 2 ou 3 albums par an, 3 maxi. Pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir leur donner l'envergure qu'ils méritent. C'est des projets au long cours sur lesquels il y a un boulot de dingue et moi je trouve ça d'une tristesse et même un dysfonctionnement total que d'imaginer que le livre y sort, il est plus ou moins vu, il est plus ou moins lu et puis next quoi.
Ah ouais, la durée de vie d'un livre.
Et quand tu vois le travail qu'il y a derrière, parce qu'il y a le sujet de la rémunération et puis il y a aussi le sujet de l'implication du boulot qu'il faut pour faire ces livres-là, s'ils sont soignés, s'ils sont mûris, s'ils sont voilà, on essaie de les accompagner et ben sur Yahoo Japon, sur Il était une forme, on travaille sur des projets de jeux et d'explorer d'autres et je pense que c'est très vertueux en plus parce que c'est aussi arriver à aller chercher des gens ailleurs pour les ramener aussi vers le livre et pour faire découvrir aussi l'univers d'un illustrateur et faire quelque chose d'un peu complet. Tu vois, il y a un jeu qui a été créé autour d'Il était une forme qui est pas encore édité. Je m'y attelle. Et il a été testé déjà parce qu'on en a fabriqué un ou deux protos qui ont servi pour des ateliers et il y a de la demande, notamment de médiathèques, de ludothèques et de tout public sur ce jeu. Donc voilà, ça serait d'arriver à créer un peu des petits univers autour de chaque album sur des collabs et d'aller un peu plus loin que le livre et qui parfois aussi est un petit peu circonscrit en âge, alors que sur des jeux, bah, tu peux ouvrir peut-être plus. Mais c'est compliqué à fabriquer éthiquement. En France, j'en parle même pas. Et
oui,
en Europe,
bah oui, c'est quasi impossible en fait. Ouais. Quand tu veux le faire et puis quand tu te rends compte de toutes les difficultés et que ça correspond pas à l'idée que tu avais du côté éthique, là tu te dis waouh, ok, d'accord, j'ai compris.
Ben ouais, c'est passionnant de se dire qu'on peut essayer de trouver des façons de le faire. On va essayer. Et peut-être d'ailleurs, je me dis peut-être pour ces productions-là, on passera par du crowdfunding. Ce que pour le moment, on s'autorise.
Alors,
on en a fait
aventure,
le lancement,
hein,
de Graou. Ouais.
C'est vrai.
Et on en avait même fait un à mi-chemin de Georges quand on passait en nouvelle formule. Donc, on avait appris de ce premier pour le deuxième.
Ah oui.
Et on n'en a pas refait après sur le livre parce qu'on, voilà, par respect de la chaîne du livre, et des libraires qui sont quand même super importants pour nous. Donc, on le fait pas. Mais pour les jeux, je pense qu'on le fera peut-être. Donc, il y a ça. Et puis après, dans le rêve, ben c'est de pouvoir avoir des aussi beaux projets que les projets d'albums qu'on a eu la chance d'éditer, de continuer à sur la brique Georges, de continuer à construire cette maison d'édition et de qu'elle ressemble à quelque chose, quoi, que ce soit un tout cohérent et que voilà, que les auteurs illustrateurs s'y sentent bien, voilà.
C'est clair. Pour terminer, il y a une question de Lutz qui, je trouve, pourrait bien clore. C'est quel conseil... Attends, la question a disparu, pardon, je la reprends. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait lancer son magazine, même si c'est en mode fanzine gratuit dans un premier temps?
Gratuit.
Oui. Alors... Quel conseil je pourrais donner en 2023 ?
En 2023.
J'essaie de réfléchir à s'il y a des conseils qui permettraient de faire plus facile que ce qu'on a fait en donnant moins de notre personne. Il y a des années, on faisait une quinzaine de salons par an. Et je peux te dire que quand tu fais des salons autant de week-ends, parce que c'est vital pour te faire connaître et que, bien évidemment, tu as travaillé samedi et le dimanche, mais le lundi, tu t'attelles avec déjà une to-do à faire pleurer de trucs qui sont en retard. Il n'est pas question de te dire que tu vas récupérer. J'essaie de réfléchir si c'est possible de... Je crois qu'il y a une question d'échelle, en fait. Je pense que si ça reste un projet que tu fais pour le plaisir, à côté de ce qui te fait vivre, et que tu peux te permettre de produire à petite échelle. Après, c'est quoi le modèle économique si tu veux financer des contributeurs? Il y a un espace, je pense, pour faire quelque chose qui reste dans la sphère du plaisir et où tu rentres pas dans la machine avec ce qu'elle veut dire, nécessité de périodicité, nécessité de volume suffisant pour qu'un diffuseur-distributeur veuille bien te diffuser, nécessité de gérer tout ce qu'il y a à gérer derrière. Et pour ça, il faut à minima un peu une petite équipe, sinon tu vas dans le mur. Je crois que c'est un peu ça le choix du départ. Et d'ailleurs, nous, quand on a lancé Georges au départ, on savait pas quel choix on allait faire à cet embranchement-là. Est-ce qu'on allait se dire, on continue à faire 500, on continue à faire grain de sel pour le plaisir, on édite des illustrateurs qu'on aime bien, etc. Ou est-ce qu'on choisissait de dire, on veut qu'ils soient en librairie, on veut faire monter notre lectorat, on veut que ce travail qui est fait et qui est énorme, le plus d'enfants possible, en bénéficie, et c'est ça notre raison d'être en fait, parce que c'est ça notre raison d'être, et ben si c'est ça, il faut donner du volume, il faut donner de l'ampleur, et ça, ça se fait pas sans moyens humains et moyens économiques. Et là, le problème, c'est que t'as mis le doigt dans un truc qui te prend au départ le doigt et très vite le coude et très vite tout entier. Et là, c'est très 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 chronophage, c'est énorme, et ça serait, je pense, sur la revue, assez fou de penser qu'on peut le faire sans solidité, sans connaissances aussi diverses de la chaîne du livre, si on choisit la librairie, de comment on gère économiquement un peu un projet comme ça, de comment au fur et à mesure on apprend, comment on fidélise sur de la revue. Voilà, je pense qu'il y a un peu deux un choix, deux échelles, quoi.
Faut que ça reste du plaisir, the minimum viable product, comme on dit en marketing, investir tout en faisant en sorte que ça reste gérable, et puis grossir au fur et à mesure. Et puis voilà, on sent qu'il y a eu du plaisir, et c'est pour ça que ça a fait des petits, qu'il y a eu Graoum, qu'il y a eu des projets d'agence, qu'il y a eu les collabs, qu'il y a eu les livres, la maison d'édition. Si on sent que c'est une machinerie lourde et pas très enthousiasmante, ça se sent, quoi. Bon, c'est une évidence, hein. je clôt avec une évidence. Mais c'est bien de la rappeler. Ouais. Have fun. Parce que parfois, on veut à tout prix que ça marche. Et parfois, ça en devient sclérosant. Et parfois, on oublie de prendre du plaisir. Et c'est peut-être un petit peu dommage. Donc,
Ouais, et puis je trouve que ton parcours, voilà, justement, montre bien qu'en fait, que tu peux avoir comme ça un chemin en fait qui serpente, et puis en fait tu fais des choix, et ces choix-là ils t'amènent justement à amener des briques et des briques et des briques, et aujourd'hui Maison Georges, c'est une affaire qui roule et qui est jamais gagnée d'avance, mais qui roule et qui est chouette. Donc ça te donne vraiment de l'espoir. Voilà.
Ah bah c'est chouette.
Maison Georges was in the place avec nous sur Sens Créatif. Merci beaucoup à Bénédicte pour ton temps, pour tes réponses à nos questions, et on a pu rentrer vraiment. Je pense que voilà, on a eu un bon panel de tout le parcours, tout l'histoire.
On sait toujours pas qui est Georges, mais enjeux. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Il est mystérieux.
Oui,
Georges, il est mystérieux, il le restera
beaucoup.
Jusqu'au bout. C'est pour ça que ça marche. Merci à toi pour ton temps. Merci aux patates qui étaient présentes avec nous aujourd'hui pour nous suivre sur le direct. Sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et on vous dit à très bientôt.
Ciao, ciao,
au revoir, ciao, ciao les potatoes.
À
bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas,
Everything is connected.